Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de Fréquence Mistral Digne avec pour invité aujourd'hui Carla Petit. Carla Petit, dont nous allons faire plus ample connaissance. Son film va être projeté, un film réalisé par Carla Petit et Pierre Petit, son père, à perte de vue, que nous aurons le bonheur de voir à Digne au Centre culturel René Char, mardi 14 janvier à 20h au Centre culturel René Char. Donc c'est en partenariat avec les rencontres cinématographiques. Bonjour Carla. Vous êtes étudiante à l'IUT d'Aix-Marseille, site de Digne.
C'est ça.
Et vous avez un problème de cécité, on peut dire ça comme ça, une malformation.
Oui, alors je n'aime pas trop parler de problème parce que ça fait tout de suite peur, mais effectivement je suis très malvoyante. Et donc je vois les couleurs, les contrastes, les lumières, les formes et les mouvements, mais tout reste assez flou et diffus.
Et donc ça, c'est depuis la naissance.
Tout à fait.
Et vous êtes habituée à vivre avec ce problème, qui n'est pas un problème. Cette particularité, on va dire, c'est une particularité de ne pas trop bien voir. Vous avez un chien qui vous accompagne depuis quelques années.
Oui, depuis 2017.
Et ça, c'est un, j'imagine que ça a été un grand bonheur.
Ben oui, tout à fait. Et puis ça change quand même énormément de choses au niveau de l'autonomie, déjà, évidemment. De la facilité à se déplacer seul, de la sécurité aussi, mais également c'est le jour et la nuit du point de vue social, parce qu'il faut quand même voir que à l'adolescence, il faut quand même voir que lors de l'adolescence, la canne blanche fait relativement peur et a plutôt tendance à éloigner les gens, alors que la présence de ma chienne, qui est en plus vraiment très belle apparemment, a vraiment tendance à attirer les personnes et à susciter beaucoup de sympathie, ce qui est, on va dire, ce qui est très appréciable et puis qui permet en fait de dépasser plus facilement les peurs que pourraient avoir les personnes au sujet du handicap et en particulier du handicap visuel.
Donc cette chienne que vous avez avec vous, donc vous facilite grandement la vie. Comment on fait avant d'avoir un chien? Ça veut dire que vous êtes dépendante, il vous faut tout le temps quelqu'un avec vous?
Non, avant j'avais la canne blanche, donc que j'ai toujours d'ailleurs pour les rares fois où Liska ne m'accompagne pas. Mais en fin de compte, quand on se déplace avec une canne, on est relativement seul. On peut être autonome, mais on est relativement seul. C'est-à-dire que il faut soit connaître par cœur, soit être dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Et pour se rendre compte qu'il y a un obstacle, il faut buter dedans. Alors que le chien, lui, va plutôt anticiper ce qui va pouvoir se trouver sur le passage, comme des poteaux, des arrêts de bus ou des choses comme ça. Et puis, de plus, il peut mémoriser des trajets, ce qui est quand même relativement rassurant. Parce que moi, quand je vais en cours, je ne me pose pas la question. Ma chienne, elle va très bien. Ma chienne sait très bien qu'on va à l'université, donc elle y va et on ne pose pas de questions. Et puis, l'avantage du chien, du point de vue des déplacements aussi, c'est qu'on peut lui demander de chercher des objets précis, comme des passages piétons, des portes ou des arrêts de bus, ce qui peut être assez long et fastidieux à la canne. Donc là, c'est sûr que c'est un gain de temps et d'énergie énorme.
Quand on vous a amené ce chien, elle était déjà dressée, elle était bébé, elle était...
Elle était éduquée, elle avait déjà tous ses diplômes qui lui permettent de rentrer en toute légalité dans l'intégralité des lieux accessibles au public.
Pour revenir à ce film, à ce documentaire qui a été réalisé, que vous avez coécrit avec votre papa, voyage, vous allez nous en parler. Dans quel pays?
Nous sommes partis au Kirghizistan à l'été 2022 pendant environ 3 semaines.
Alors, quelle a été la décision pour l'objectif de ce voyage? Est-ce que vous aviez déjà fait d'autres voyages auparavant?
C'est-à-dire que mon père étant chef opérateur et réalisateur, je l'ai toujours vu partir en voyage souvent assez loin et relativement longtemps aussi. C'était un peu symbolique de partir à notre tour tous les deux ensemble, assez loin et relativement longtemps, pour un voyage qui marquait pour moi le passage à l'âge adulte aussi. Comme papa ne s'est pas quitté la maison sans emporter de caméra, évidemment, on en a fait un film.
Alors, comment ça s'est passé? Donc, c'est combien de temps?
3 semaines.
3 semaines, dans un pays où c'est assez montagneux, c'est ça? Jusqu'à 4000 mètres d'altitude?
Ça dépend des régions, mais effectivement, autour de Bishkek, la capitale, et puis de Issyk-Kul, des lacs Issyk-Kul et Somkhul, c'est effectivement assez montagneux avec des sommets, on va dire, en moyenne plus élevés que ceux dont on a l'habitude chez nous.
Alors, comment on prépare un tel voyage avec son père? 3 semaines, j'imagine qu'il y a tout un tas de... un parcours à prévoir.
Oui, alors là, c'est là qu'on est très content quand on voyage avec quelqu'un qui a grandement l'habitude de voyager sur tous les coins du globe et dans toutes les situations. Donc, premièrement, il y a eu toute la longue et intéressante phase de préparation du film. Donc tout ce qui est travail d'écriture, réflexion sur ce que nous voulions raconter. Et puis finalement, la préparation du voyage est venue dans un second temps lorsque nous avions déjà une idée assez précise de ce dont nous aurions besoin pour raconter l'histoire que nous souhaitions raconter. Et donc nous avons pris contact avec des personnes qui résident au Kirghizistan, qui nous ont appuyés dans toute l'organisation du parcours et la logistique une fois là-bas. Et puis ensuite, il ne nous a resté plus qu'à préparer nous-mêmes nos valises et puis tout le matériel de tournage.
L'envie la plus profonde pour vous, c'était quoi dans cet objectif de voyage?
Alors, la plus profonde, je ne sais pas, parce qu'on me demande souvent ce que j'ai préféré ou ce que je voulais, ce qui m'a le plus marqué, mais...
Mais au départ.
Au final, ce voyage, c'était vraiment un tout. C'était un rêve d'enfant de partir loin, en itinérance, à cheval, de dormir dehors, d'être en immersion totale dans une culture qui est très différente de la nôtre. Voilà, l'idée principale, c'était... Enfin, une des idées principales pour moi, c'était vraiment l'immersion. Et le fait de se laisser vivre et de découvrir tout ce qu'on allait pouvoir découvrir. Vraiment de rencontrer les personnes qui vivent là-bas, d'échanger sur leur rapport, par exemple, au cheval, à la montagne, au quotidien, au nomadisme, parce que la plupart des Kirghizes que nous avons rencontrés dans les montagnes sont nomades. Il fait beaucoup trop froid l'hiver pour rester dans les montagnes et puis il y a énormément de neige, donc ils redescendent dans les villages. Et au printemps, ils partent avec leurs bêtes, leurs yourtes, et ils s'installent pour ce que nous, on appelle des estives. Donc, c'était aussi ça que je souhaitais découvrir. Et puis, il y avait aussi l'idée, bien sûr, de découvrir un peu plus en profondeur le monde de mon père, qui est le monde de faire un film, et qui nous a énormément raconté à mon frère et à moi ses retours de voyage, et ça faisait un peu conte de fées. Donc c'était aussi très chouette de vivre tout cela de l'intérieur.
Donc pour revenir au cheval quand même, quand on ne voit pas ou très peu, comment on fait pour partir dans des lieux comme ça? Il faut faire confiance au cheval, il faut faire confiance aux gens qui sont autour. Comment on se guide?
On ne se guide pas, on se laisse guider. Et finalement, ça ne diffère pas tellement de ce dont j'ai l'habitude en France. Il suffit qu'on soit dans un terrain inconnu ou même mal connu et je suis dans l'obligation de lâcher prise et de me laisser, de m'en remettre aux personnes avec qui je suis. Enfin, dès lors que je suis à cheval, je délègue quasiment l'entièreté de la responsabilité à ma monture qui se rend bien compte que je suis certainement un peu moins directive que la moyenne des cavaliers, puisque j'attends de lui qu'il choisisse où est-ce qu'il passe sur le chemin, et voilà. Et finalement, c'est une forme de collaboration. Suivant les chevaux, ça met plus ou moins de temps à s'établir, parce que y a certains chevaux, surtout en France, qui ont l'habitude d'être très très dirigés. Donc ça peut être un peu perturbant pour eux au début. Mais en Kirghizie, il faut savoir que la plupart des chevaux sont sauvages la moitié de l'année. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes et ils se débrouillent pour trouver de quoi se nourrir et passer l'hiver. Donc j'ai pas du tout eu de soucis de, on va dire, de prise de confiance avec, avec ces chevaux-là, puisqu'ils avaient l'habitude de se débrouiller tout seuls. Ils avaient l'air même plutôt contents de, d'être finalement assez libres. Et puis ensuite, c'est beaucoup, on va dire, de ressenti sur ce que le corps du cheval va transmettre, les indications que je vais recevoir de la part des personnes qui sont autour, et puis tout ce que je vais déduire en fait des sons, des odeurs, du vent qui va pouvoir y avoir, qui vont me donner énormément d'informations sur la topographie des lieux que l'on va traverser, et également sur on va dire ce qu'il y a au sol, si c'est caillouteux, plutôt herbeux, s'il y a des choses à contourner ou quoi. Tout ça, c'est des choses que le cheval voit et anticipe, donc qui sont transmises, avec un peu d'expérience, que l'on peut assez simplement lire en fait dans le mouvement de son corps, tout simplement.
Est-ce que vous aviez fait des cours d'équitation au préalable ?
Moi, ça fait 10 ans que, quand je suis partie, ça faisait déjà 10 ans que je montais à cheval, donc il n'y avait pas de souci pour moi de ce côté-là.
Et ça veut dire que quand vous faites confiance au cheval, ça veut dire que vous lui laissez les rênes souples
Oui, alors pas forcément, parce que j'aime bien avoir quand même un certain contact, sans pour autant être trop intrusive, mais en fait ça dépend vraiment du cheval. Mais on peut aussi donner tout plein d'indications au cheval sur la direction ou l'allure qu'on souhaite, tout simplement avec le poids de son corps et l'intention qu'on y met. Donc, quand je rencontre un cheval, la première phase, c'est vraiment « Ok, toi, comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu préfères, que je t'indique ce dont j'ai besoin comme ci ou comme ça ? Moi, en retour, j'ai besoin de ci et de ça, que tu prennes des décisions. » Et voilà, je veux dire, il n'y a pas de règle préétablie. C'est vraiment, on rencontre le cheval et on s'adapte. Mais je pense à titre personnel, je fais ça avec les chevaux, mais je fais ça avec les personnes en général aussi. Donc, c'est une philosophie de vie, je pense aussi.
Donc, un contact étroit avec l'animal. Et j'ai entendu dire que vous faisiez du ski aussi.
Oui.
Ça n'a pas de rapport avec le film, mais c'est juste parce que ça me sidère d'imaginer, quand on n'a pas l'usage des yeux, comment on peut avoir confiance dans le ski, parce que là, ce n'est plus un animal qui...
Non, mais dans ma famille, tout le monde a toujours fait du ski, et le passage des 3 ans, c'est on se met sur les patinettes et puis on descend la piste. Donc, toutes les personnes de ma famille, j'ai commencé entre les jambes de mes parents à apprendre à faire mes premières glissades. Et puis l'avantage, en fait, c'est que mes parents m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais par moi-même et à aller explorer, crapahuter, tripatouiller, toucher tout ce qu'il y avait autour de moi. Donc, finalement, j'avais assez peu de peur. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que j'en suis là où j'en suis actuellement, que je bénéficie d'une autonomie qui est quand même assez conséquente, même s'il y a toujours des choses qui sont compliquées pour moi. Mais c'est vraiment l'idée de dire, en fait, qu'est-ce que je risque ? Au pire, je me casse la figure, c'est pas grave. Et puis, bien entendu, quand je fais du ski alpin ou même du ski nordique, je ne suis pas seule sur la piste. Il y a toujours une personne de confiance avec des yeux et une voix pour me guider de plus ou moins près en fonction de l'inclinaison de la piste et puis de la difficulté du terrain.
Et ça, vous continuez le ski ?
quand il y a de la neige.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a de moins en moins. C'est vrai que c'est...
Quand il y a de la neige et que j'ai du temps, là, c'est vrai qu'avec les études, c'est un peu plus compliqué, mais oui.
Donc, ce voyage qui a donné lieu au film À perte de vue, c'est un super titre, qui s'est déroulé, qui vient à peine de sortir, fin 2024, un film qui a déjà eu beaucoup de prix.
Oui.
Que vous accompagnez donc à sa sortie, vous l'avez présenté avec votre père dans différents lieux.
La première fois que notre film a été projeté, c'était au Festival international du film d'aventure à l'automne 2024. Et c'était une expérience vraiment très nouvelle et très très surprenante pour moi, qui ne m'attendais absolument pas à ce que nous recevions un accueil aussi chaleureux et aussi enthousiaste de la part de toutes les personnes qui étaient présentes, que ce soit l'organisation, le public, les membres du jury. Et donc nous avons eu une projection pour les scolaires et puis une projection grand public.
Le documentaire a reçu le prix de l'aventurière et le prix coup de cœur du jury au Festival international du film d'aventure de La Rochelle.
Oui, tout à fait.
Et la mention spéciale du jury au festival Les Écrans de l'Aventure à Dijon.
Oui, c'est ça.
Le prix de la Cinémathèque de Montagne à Gap.
Eh oui, effectivement.
Ça n'arrête pas, les prix. qu'est-ce que ça... Donc ça
oui, et c'est... puis, oui. Bon, par ailleurs, nous avons eu aussi le prix Nature et Environnement à Autran, ainsi que le prix Marc, décerné par le département de l'Isère, dont mon père et moi sommes originaires. Et puis le prix du public du festival de films d'Autran aussi. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable quand on y pense. On a fait 4 festivals et on a eu 7 prix.
Et c'est pas fini.
C'est sans doute pas fini. Nous avons nombre d'autres diffusions prévues, dont celle de Digne effectivement mardi à 20h.
Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un film primé, un premier documentaire avec vous?
Eh bien, tout d'abord, ça nous fait énormément plaisir parce que ça veut dire que notre film parle aux gens, que notre film plaît. Et ce dont nous n'étions absolument pas sûrs lorsque nous l'avons écrit, réalisé et puis finalement présenté. Il faut savoir que mon père et moi avons fait tout ce travail quasiment seuls. Nous n'avons pas réussi à obtenir de soutien de la
financier.
Part financier. Nous avons quand même une aide du fonds d'aide au cinéma de montagne, mais nous n'avons pas eu de diffuseur ni de producteur. Donc finalement, c'était une perpétuelle remise en question sur est-ce que vraiment ça valait le coup de faire ce film. Pour nous, évidemment, ça valait le coup, mais est-ce que ça allait parler aux gens? Et donc, de fait, tout à fait. Et puis, il faut aussi savoir que les prix appelle l'intérêt des autres festivals et que comme pour l'instant tout est mené sur fonds propres et en autonomie, ça nous permet premièrement de faire rayonner notre film et notre histoire, mais également de pouvoir obtenir des financements comme celui qui nous permet actuellement de présenter le film en audiodescription.
Est-ce que vous voulez dire quelques mots la carrière de votre papa, enfin, en tant que réalisateur, savoir un peu son parcours à lui.
Lui a toujours travaillé dans l'image depuis dès qu'il est sorti de ses études. Il a fait énormément de films de montagne et d'aventure dans des conditions souvent assez extrêmes, à partir plusieurs semaines, dans des conditions plus ou moins rassurantes quand on a une petite fille et qu'on voit son papa partir. Mais voilà, il a travaillé notamment pour des grandes chaînes comme Arte, comme ou d'autres. Et puis, avec toujours quand même globalement ce fil rouge de la nature, du voyage ou de l'aventure ou d'un mix de deux ou trois.
Et votre frère est plus âgé ou plus jeune ?
De 2 ans plus jeune.
Et lui, il n'a pas eu encore cette chance de faire un voyage avec le père ?
Alors si, lui aussi est parti pour sa majorité à son tour, et dans un autre pays, et pour un projet très différent. Mais comme mon frère et moi sommes très différents, ça n'a pas donné lieu ça n'a pas donné lieu au même débouché, on va dire.
Il n'y a pas eu de documentaire à l'issue du voyage?
Non, pas pour celui-là. Ouais.
Il n'est pas jaloux?
Bah, écoutez, je pense pas. C'est vrai que pour moi, ça peut être quand même un questionnement. Mais de fait, j'arrive à évoquer ça avec mon frère. Et puis, voilà, tout est différent. Il vit des choses avec mes parents qui sont différentes. Et puis, je pense que, comme nous nous entendons très bien, en fait, ça donne pas lieu à des conflits.
Carla Petit, donc, on pourra vous voir dans le film « À perte de vue », réalisé par vous et votre père, Pierre Petit, au Centre culturel René Char et à Digne. Et c'est vraiment super pour nous. Merci de le projeter ici. Et c'est donc en partenariat avec les rencontres cinématographiques.
Oui, de Digne et toute l'équipe du René Char que je remercie très chaleureusement pour leur aide et leur accueil. Rien n'aurait été possible sans eux. On va quand même le préciser. Et ainsi que mes deux enseignants de l'IUT qui m'ont beaucoup aidé à prendre contact avec eux et à monter tout le projet. Parce que pour moi, c'était très important de le diffuser à Digne, parce que je suis très attachée à ce lieu, mais j'aurais absolument pas pu faire ça seule, donc merci à tous ceux qui m'aident.
Comment on co-écrit donc un film 52 minutes, c'est court sur un voyage de 3 semaines. Comment on fait des plans, se dire tel jour on va faire ce parcours-là, on va rencontrer tel...
Notre parcours de voyage était déjà écrit à l'avance, lorsque nous sommes partis. En fait, notre parcours de voyage était déjà écrit et nous l'avions écrit en fonction de ce que nous voulions raconter. Enfin, nous avons un peu adapté l'un avec l'autre. Donc nous sommes partis avec un cahier, un peu comme un cahier de voyage, mais déjà écrit, avec des séquences que nous souhaitions raconter, donc où il était plus ou moins détaillé les thèmes que nous voulions aborder à tel moment, ainsi que les personnes que nous pourrions ou non rencontrer. Mais comme tout voyage qui se respecte, il y a eu énormément de surprises, et notamment beaucoup de très belles surprises et de rencontres fortuites et très heureuses que nous n'avions pas prévues à l'avance, mais qui finalement ont vraiment donné un caractère qui nous a plu finalement au film. Donc à la fois nous sommes partis avec des idées et des choses écrites, et à la fois nous avons laissé toute une place au moment présent, en fait, tout simplement, et à ce que nous allions vivre.
Est-ce que vous avez les choses, évidemment, que vous avez le plus aimées, c'est les rencontres, c'est quoi, c'est le...
Je pense que je me suis énormément nourrie des rencontres, effectivement, et de beaucoup de choses que les personnes m'auront apprises, finalement, sur elles, sur leur mode de vie, mais aussi sur moi. Et finalement, pendant ce voyage, j'ai aussi appris à rester moi, quelle que soit la situation, et à assumer encore plus le fait que c'est pas forcément facile de se retrouver dans une yourte avec des personnes qui sont visiblement contentes de nous accueillir, mais où moi, à titre personnel, je ne maîtrise pas les codes, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut marcher, interagir, se comporter, je ne parle pas la langue. Et je ne vois pas non plus les regards, il faut savoir quand même que beaucoup de choses passent par le regard. Donc, et puis faire ça en sachant qu'en plus, bien souvent, c'était filmé. Donc, finalement, c'était aussi un grand saut dans le vide qui m'aura beaucoup vraiment rendu service, je pense.
Ouais. Et dans les anecdotes de choses qui ne se sont pas vraiment passées comme c'était prévu, ça, j'imagine qu'on a toujours des surprises agréables ou désagréables.
Oui, bon, il y a eu une tempête notamment.
Bon, qu'est-ce que c'est qu'une tempête ?
Ça arrive. Voilà, bon. Ça fait des bons souvenirs. Une fois qu'on est arrivé, ça fait des bons souvenirs.
Et tempête quand vous étiez sur le cheval?
Oui, tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on fait quand, dans ces cas-là?
Ben, on descend le cheval quand il se met à marcher sur les postérieurs, on descend le cheval. Puis quand on voit que c'est même pas la peine d'essayer de le calmer, ben, on capitule. Et puis voilà, on attend que ça passe. Hein. De toute
Ouais.
façon, l'avantage, c'est que nous n'étions pas seuls et que nous avions une personne pour s'occuper des chevaux qui a très bien su récupérer les animaux en détresse et puis essayer de maintenir tout le monde. À peu près dans des bonnes conditions, on va dire.
Et pour le travail du film, qu'est-ce qui est le plus difficile une fois qu'on a les images, une fois qu'on a le son, de faire les sélections en fait de scènes qui vont être gardées?
Oui, effectivement. Et puis, de savoir vraiment ce qu'on veut raconter et sous quel angle on veut le raconter. Parce que c'est un film qui est à la fois très personnel pour mon père et moi, mais à la fois nous souhaitions raconter une histoire universelle. Et puis à la fois on voulait être franc sur qui nous sommes et sur la façon dont nous vivons notre relation et dont nous avions vécu le voyage, dont nous vivons ma spécificité. Mais à la fois, il fallait que nous puissions être compris par les personnes qui ne nous connaissent pas mais qui vont regarder le film. Et d'un autre côté, savoir garder une certaine forme d'intimité. Donc ça a été vraiment tout un travail de dosage et de ce que nous voulions, de comment nous allons traiter finalement les sujets.
Donc, qu'est-ce que vous diriez que vous ramenez de ce voyage, à part là, évidemment la grande satisfaction d'avoir ce film primé? Est-ce que ça a changé des choses en vous?
Je suis pas sûre d'avoir assez de recul pour dire vraiment ce qui a changé en moi du fait du film. Si, quand même. Pour moi, ce film, ça a vraiment permis d'assumer finalement qui je suis en tant que moi, en tant que. Ça m'aura vraiment permis d'assumer qui je suis. Pour moi, pour les autres, et puis de savoir évoquer avec toujours plus de, on va dire, délicatesse et de précision des spécificités ou des thématiques qui font finalement souvent assez peur aux gens, et de savoir évoquer ça finalement en toute simplicité, je pense que ça m'aura aidé, mais que j'espère que ça aura aidé aussi d'autres personnes qui peuvent voir le film et qui peuvent se dire qu'elles aussi peuvent faire pareil.
Est-ce que vous, ça vous donne envie de refaire un voyage ou d'autres voyages?
Oui, alors c'est la question que tout le monde me pose. Bien sûr, il y a toujours une part de nous qui a très envie de repartir, et puis de redécouvrir encore des choses, de re-rencontrer des tas de personnes absolument extraordinaires comme ça a été notre cas. Pour l'instant, aucun voyage n'est prévu. Nous souhaitons d'abord vivre la vie de ce film-là en le diffusant le plus largement possible et puis en rencontrant également des personnes qui parlent le film. Et finalement, c'est un deuxième voyage, en fait, tout simplement de voyager avec ce film.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous poser? Qu'est-ce que vous avez envie que je vous pose comme question?
Je voudrais qu'on aborde le lieu de description. Il faut savoir quand même que un des axes du film, c'est quand même que mon père a toujours travaillé dans l'image et que moi, j'ai toujours été quasiment non-voyante. Donc ça aurait pu donner lieu à une certaine forme d'incompréhension, mais que je n'ai jamais ressenti moi à titre personnel. Parce que papa m'a toujours énormément raconté tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il photographiait, tout ce qu'il filmait. Et lorsque nous regardions des dessins animés, des films, il m'a aussi toujours beaucoup raconté. Et donc, pour moi, c'était très très important que notre film soit disponible en audiodescription pour des publics malvoyants. Donc l'audiodescription, c'est une voix additionnelle qui est souvent retransmise dans un casque et qui décrit les principales choses qui vont se passer à l'image pour apporter des éléments de compréhension. Mais ça n'est pas des interprétations, ça ne dit pas au spectateur ce qu'il doit comprendre du film. C'est vraiment important de laisser l'entière liberté à la personne qui écoute, au même titre qu'on la laisse à une personne qui regarde. Et donc, grâce à la compagnie Véhicule, qui a écrit et réalisé notre audiodescription, notre film est donc disponible gratuitement, enfin, l'audiodescription de notre film est disponible gratuitement sur l'application Greta, que l'on télécharge sur son téléphone. On télécharge ensuite le fichier correspondant au film, et lorsque l'on se rend dans une salle de cinéma ou que l'on regarde le film de chez soi, on lance l'application qui écoute le film et qui se met à nous le décrire.
Donc c'est la personne qui l'a sur son téléphone.
Alors elle n'a pas le film sur son téléphone, elle a simplement la bande audio correspondant à l'audiodescription.
Mais ça va se synchroniser
oui.
En même temps que le film démarre.
Automatiquement, tout à fait.
Dans une salle de cinéma.
C'est pour ça qu'il faut télécharger le fichier avant, parce que bien souvent il y a des brouilleurs dans les salles de cinéma.
D'accord. Ah oui, ça c'est important, évidemment.
Symboliquement, ça a une valeur très forte, puisque faire un film qui traite en grande partie du handicap visuel, mais qui n'est pas en audiodescription pour les personnes handicapées visuelles, ça a été quand même un peu triste. on a eu du mal à trouver les financements pour un tel projet. Mais là, tout est en place. Et donc, j'invite tous les spectateurs, malvoyants ou non, d'ailleurs aussi tous ceux qui souhaitent simplement découvrir ce que ça veut dire que l'audiodescription, à télécharger l'application, télécharger le fichier et venir voir le film avec nous. Parce que tout est en accès libre et gratuit.
Donc, c'est l'application Greta.
Oui, tout à fait.
Alors, si vous voulez dire quelques mots sur vos études.
Si on peut éviter le sujet, ça m'arrange, c'est
d'accord.
Bien pour l'interrogation encore. Actuellement, je termine mon bachelor génie biologique parcours agronomie à l'université d'Aix-Marseille, site de Digne. C'est un cursus qui m'aura énormément plu et où j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par tout le personnel de l'IUT et de Aix-Marseille en général. Parce que faire des études quand on est handicapé visuel, c'est vraiment pas toujours facile. Donc ça aussi, ça a été un petit défi, comme de partir et comme beaucoup de choses. Mais voilà, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Je pense que ça n'a pas été simple non plus pour les équipes enseignantes. Mais voilà, on y arrive avec beaucoup de bonne volonté et de travail. C'est possible. Donc évidemment, je remercie aussi toute l'équipe de l'IUT et de Aix-Marseille pour le soutien dont j'ai bénéficié. Parce que si j'avais pas eu ça, c'est clair que je serais pas allée jusqu'au bout.
Donc c'est 3 ans, 3 ans d'études.
Tout à fait, 3 ans.
Et qui demande quoi donc, comme attention particulière pour vous, vos besoins pour suivre les cours correctement, normalement, si on peut dire ça, comme ça.
Je travaille avec un ordinateur auquel je connecte une plage braille. Donc ça, c'est du matériel assez onéreux. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup de contenus qui ne me sont pas accessibles et qui nécessitent une transcription par une personne dont c'est le métier. Donc là, il faut que mes enseignants envoient les contenus au préalable, que le transcripteur transcrive et que moi, je reçoive de nouveau. Et puis, je passe la plupart de mes examens à l'oral parce que à l'écrit, je pourrais le faire, mais c'est très long et fastidieux. Et bien souvent, je n'arrive pas à le faire dans le temps imparti qui m'est donné. Donc j'ai la chance que l'IUT entende cela et mette tout en place pour que je puisse passer les partiels à l'oral. Mais je passe les mêmes partiels que mes camarades et mon secrétaire ne me souffle pas les réponses, simplement il me lit les énoncés et il note sous ma dictée. Donc voilà, c'est vrai que ça a pu donner lieu à certaines formes de questionnement de la part de mes camarades de promo. « Ah bon, tu passes le partiel avec la prof ?»« Oui, oui, mais t'inquiète, c'est pas nécessairement un avantage, mais bon. » Voilà, voilà.
Donc les partiels, c'est bientôt et
oui.
En juin, tout est terminé ?
comme je suis alternante, je n'ai plus de cours à proprement dit à partir de mi-février.
Oui, quand vous dites alternante, ça veut dire quoi en fait? Vous alternez avec quoi?
Il y a une période sur un an en fait. J'ai signé un contrat d'alternance avec une entreprise qui m'accueille à peu près les deux tiers de l'année, voire plus, entre deux tiers et trois quarts de l'année, sur son site et qui me fait travailler et qui me forme à travailler en agronomie. Et le reste du temps, je suis à l'université, je suis des cours.
D'accord. On n'a pas parlé des sens. Est-ce que vous avez des sens très aiguisés au niveau, évidemment, de l'odorat, de...
Je suis pas sûre de sentir mieux que les autres. Par contre, je traite les informations reçues sans doute avec un peu plus d'attention. Mais j'ai pas une ouïe super développée. Enfin, je pense pas plus que toute personne qui travaille un peu dessus. Il est vrai que j'ai un toucher particulièrement sensible puisque je lis en braille. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui se travaillent et qui sont... on va dire atteignable par n'importe qui, j'ai vraiment pas de super pouvoir, tout ça c'est de l'entraînement et une habitude aussi, tout simplement, si les informations ne sont pas accessibles par un canal, on va les chercher ailleurs.
Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter?
Moi je sais pas. Donc.
Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter donc
Ben, j'ai envie de dire, moi je pense que... je pense que notre film a vraiment bien commencé depuis l'automne 2024 où il est sorti. J'espère que ça va continuer et qu'on va encore rencontrer des chouettes personnes avec qui on va pouvoir échanger autour de tous les sujets que nous abordons et qui nous tiennent vraiment à cœur à mon père et à moi, mais aussi à toute ma famille, puisqu'on parle beaucoup de mon père et on parle beaucoup de moi. Mais il faut savoir que j'ai aussi une mère, un frère et plein d'autres familles qui nous ont soutenus et accompagnés à toutes les étapes du projet et qui, en plus, nous ont accompagnés dans certaines diffusions, lors de certaines diffusions. Et ça, c'était vraiment très chouette.
Est-ce que le métier du cinéma, donc de réalisation, d'écriture, c'est quelque chose qui pourrait vous attirer pour écrire un scénario
Bah, je pense que si l'occasion se présente, moi je ne saurais refuser. Hein. C'est toujours pareil. J'ai pas prévu ce qui va m'arriver dans les prochaines années, donc on verra. Mais je pense que il y a de grandes chances que ce genre d'occasion se représente. Oui, bien sûr.
Carla Petit, merci beaucoup.
Merci
et
à
puis
vous.
Donc, je serais ravie de découvrir le film avec les Dinois. Mardi, donc 14 janvier, ce film À perte de vue de Carla Petit, Pierre Petit, qui est sorti en automne 2024, un documentaire de 52 minutes. Donc ce voyage initiatique à cheval dans les steppes kirghizes, c'est comme ça qu'on dit. Une aventure extraordinaire, d'autant plus que la jeune cavalière est malvoyante. Je lis le synopsis du film. Accompagnée par son père Pierre, chef opérateur et réalisateur, elle entame un parcours exigeant entre steppe et col à plus de 4000 mètres d'altitude. Volontaire, curieuse, elle découvre le pays et va à la rencontre du peuple nomade. Pierre filme le voyage de Carla et sert Dieu à sa fille. Il lui décrit les scènes qu'elle ne peut voir, la prévient des dangers, l'encourage. Carla prodigue à son père des conseils d'équitation et tente de lui communiquer sa relation singulière aux animaux, aux énergies, aux éléments. Le lien unique et fusionnel qui s'est tissé entre eux depuis 19 ans se dévoile peu à peu. Carla découvre le monde de son père, passionné d'images et de voyages. Pierre cherche à capter l'univers de sa fille. Il sait qu'après ce chemin parcouru ensemble, il devra la laisser s'envoler vers sa vie d'adulte. Voilà le synopsis du film. Eh bien, bon vent pour votre vie d'adulte, Carla.
Merci
et on
beaucoup.
Se retrouve mardi, donc 14 janvier à 20h. Au Centre culturel en Échard. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.